Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, nous allons aborder un sujet que vous connaissez bien. Parce que ce sont des questions que nous, les hommes, nous posons régulièrement. Les dames, peut-être en particulier, quand elles sont en train de chercher une recette de cuisine, qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Non? Oui? Vous êtes bien timide ce matin? Alors, on va en parler de tout ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Eh bien, on va, en tous les cas, rester dans la ligne qui est la nôtre lorsque nous ouvrons la Bible, c'est-à-dire que nous allons véritablement donner une application spirituelle à toutes les questions existentielles que nous avons, et des petites questions comme ça, parce que on va le voir ensemble. Alors, je vais lire un premier texte, et ça sera très actuel, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est important de pouvoir nous mémoriser les choses que nous allons partager, puisque c'est des choses qui ne sont pas étrangères à Dieu, et encore moins le souci que Jésus pouvait avoir pour le bien de ses disciples. Alors, je propose que nous fassions une première lecture dans Luc, chapitre 22, et au verset 35. Vous allez voir, ça va être très court. Alors, Luc, chapitre, tout simplement, 22, verset 35. La question que Jésus va poser à ses suivants, ses disciples, est celle-ci. Quand je vous ai envoyé sans bourse, c'est là où on met l'argent, naturellement, sans sac de provisions pour récolter les provisions, sans souliers, c'est quand même inconfortable. Et il est dit ceci, c'est la question principale, avez-vous manqué de quelque chose? Est-ce que vous êtes soucié ou étiez-vous en inquiétude de savoir comment vous alliez pouvoir faire? Avez-vous manqué de quelque chose? Et apparemment, unanimement, ils répondirent, de rien. De rien, merci. De rien. Alors, j'aimerais donner un contexte qui sort de notre Bible. Voilà, c'est bon comme ça. Hein, qui sort de notre Bible, mais qui va finalement, affluer finalement dans les grandes leçons que nous avons sur le plan spirituel à prendre. Une question, elle est posée. Une réponse, elle est donnée, de rien. Et nous pouvons aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, quand sera-t-il? Quand est-il aujourd'hui? Quand sera-t-il? Eh bien là, demain. Dans les temps de l'avenir. Et il y a de quoi se poser des questions. Je voudrais simplement préciser qu'on a tout. Nous, on est bien, franchement, dans un pays comme le nôtre. Je ne suis pas nationaliste, mais je pense qu'il faut regarder les choses au lieu de passer notre temps à râler, à grogner, à toujours... Vous savez, ça donne le climat quand même de nos pays occidentaux. On n'est jamais content de rien. Alors, c'est moi qui le dis, hein, vous me pardonnez si je me trompe. Hein. Donc, les temps présents, les temps de l'avenir... Et comment vont vivre nos enfants dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Ça nous fait quand même un sacré souci. Quand on voit le monde, la société, quand on voit les violences, quand on voit les agressions, quand on voit l'irrespect, quand on voit qu'on dit n'importe quoi et n'importe qui, c'est vrai, c'est faux, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Ça a une valeur. La vie n'a pas d'importance aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine où il se passe des choses dramatiques, naturellement. Alors, dans quel monde, eh bien, nous allons projeter nos enfants, nous, nos petits-enfants, etc. Et où en est le monde aujourd'hui? Alors, il suffit tout simplement de prendre les médias et puis vous allez avoir une profusion d'informations. C'est vrai, qui vous rendent malade. Dans notre monde, eh bien, il y a l'abondance. Pardonnez-moi, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais toujours est-il que si véritablement l'homme et sa raison, l'homme et ses capacités, l'homme et son intelligence veut se donner la peine, il peut être bien quand même dans la vie. Voilà. Bon, tout simplement, il faut respecter certaines choses. Se respecter soi-même, c'est avant tout respecter les autres. Donc, il y a l'abondance. Il y a le confort. Ah, c'est formidable, hein. Vous vous rendez compte, tous les magasins d'ameublement et de décoration, etc., tranquillos, hein. Voilà, c'est bien. On est content quand on achète quelque chose, c'est vrai. Et on n'a pas besoin d'aller en Chine pour le chercher. C'est livré à domicile, avec une surtaxe si c'est des petits colis. Bon. Alors, notre confort, notre abondance, toutes les facilités que l'on peut avoir. Vous n'avez pas d'argent, faites un crédit. Voilà. Alors, il y a les choses moindres et puis des choses qui peuvent durer quelques années pour rembourser, voilà. Donc, c'est toutes les facilités qui sont là. Les richesses aussi, ouais. Si on est intelligent et qu'on sait faire un petit peu d'avance, on ne va pas redevoir, finalement, à ces grands organismes financiers qui nous attendent tous les mois avec des lettres de rappel. Donc, il y a ça aussi, la richesse. On est quand même privilégié pour se soigner. Moi, j'en suis le premier à le dire. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a donné à mes côtés. Je ne suis pas le seul, hein. Parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, j'en dis pas plus, mais vous devinez la suite. Pour se soigner, pour se nourrir, rendez compte, tous les marchés que l'on a, les supermarchés, les ultras, les hypermarchés. Vous savez, je me promène dans la semaine, j'ai rien à faire. Donc je vois un petit peu comment ça se passe. Moi j'ai été surpris qu'au Maroc, on est allé plusieurs fois, quand vous allez par exemple dans les médinas et puis sur les marchés là-bas, vous verriez, mais ça déborde de toutes sortes de choses. C'est vraiment impressionnant, hein. Alors ça fait un petit peu fouiller, etc., mais c'est quelque chose. Il y a des pays qui nous disent, ou on peut peut-être prétendre qu'ils sont pauvres, mais non, je crois qu'ils ont ce qu'il faut. Hein, mais il y en a à côté, par contre, c'est autre chose. Ça dépend du régime, hein, ça change beaucoup de choses. Regardez, par exemple, la chance que l'on a de se déplacer. Les gens, dans le temps, se déplaçaient au pied du cheval. Voilà, hein. Pop, 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 pop. Je fais bien, hein, quand même. Bon, ben, j'ai pas eu de chevaux, moi, mais j'ai mes merveilles. Nous, on se déplace à une vitesse extraordinaire. C'est marqué partout. Limitation à 80, 90, et vous avez les gens qui roulent à... Bon, je vous laisse siffler. Voilà, la vitesse, c'est bien. Les avions, vous vous rendez compte? Il y a une dame, une demoiselle, enfin, c'est pas, ça doit être une dame, qui tourne autour de notre planète aujourd'hui. Elle doit être à 380 km de nous, hein, dans la... Comment ça s'appelle? Dans l'espace. Hein, et elle va à une vitesse extraordinaire. Faut pas qu'elle ouvre la porte pour descendre, hein, parce que là, il va plus y avoir grand-chose. Donc, la vitesse. C'est vrai, on va d'une ville à une autre, maintenant, on s'en aperçoit plus. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi, qui vient peut-être en sombre, les menaces permanentes qu'il y a dans notre monde. Le monde pourrait vivre heureux, pourrait vivre en paix, pourrait vivre en concorde. Enfin, pas l'avion. Hein. Mais toujours est-il, il y a toutes sortes de choses... Les menaces interplanétaires. On en parle aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Avez-vous manqué de rien? Avez-vous manqué de quelque chose? Alors, de rien. Parce que nous savons que tout cela, eh bien, c'est chargé. C'est chargé, et quand on veut aller peut-être un peu plus loin, sans être des mystiques, on s'aperçoit que dès le début du livre de la Bible, de la Genèse, on nous a dit que l'homme avait des promesses de bonheur, et finalement, au résultat des courses, eh bien, il est dans le malheur, et il n'y a rien à faire. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont des politiques, des gens qui gouvernent, etc., et qui se creusent la tête pour essayer comment on pourrait finalement vivre dans la paix. C'est encore un exemple. Alors, tout ça, c'est la réalité de notre monde. Qu'en est-il? Qu'en sera-t-il? Parce que ça ne s'arrange pas. Et puis ajoutons, eh bien, les, tout simplement, les fléaux météorologiques. Ah, il n'a pas plu depuis au moins un mois, là, chez nous. Voilà. Les convulsions de notre planète, hein, tantôt volcaniques, tantôt toutes sortes de manifestations, des plaques qui descendent de la montagne, enfin bon, toutes sortes de choses. Sur Terre, voilà ce qui se passe. Et puis, sur la mer, il y a des tsunamis qui vous emportent, comme en 2004, 400 000 morts. Ce sont des réalités. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ou en Russie? C'est des milliers d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants qui sont tués, et ils n'ont rien demandé. Hein. Alors, les tsunamis océaniques, ça existe. On est là sur les côtes, et vous allez voir bientôt, moi je vais peut-être avoir de l'eau jusqu'à, je suis au deuxième étage, mais je commence à acheter des bouées de secours. Alors, les pollutions atmosphériques, toutes les ressources vivrières essentielles à la survie, etc., etc. Mes frères et sœurs, j'ai donné un titre à notre message, peur de manquer. Avez-vous manqué de quelque chose? Vous manque-t-il quelque chose d'essentiel à votre vie et à votre survie ce matin? Peur de manquer. Alors ça crée naturellement, et bien là, cette projection dans un avenir qui n'est pas le nôtre, que nous ne pouvons pas faire, mais qui est certainement où l'homme est l'artisan de tout ce qu'il vit, et de ses pleurs et de ses morts et de toutes sortes de choses. Alors, ça crée un climat anxiogène. On n'y pense plus, on y pense, on y revient à chaque événement, etc. Alors, dans les besoins de nourriture, d'alimentation, pour l'instant ça va. Hein. Mais quand on regarde la faim dans le monde, c'est terrible. Quand vous avez des petits bonhommes là, qui sont tout rachitiques, hein, ils sont avec un ventre énorme parce qu'ils n'ont pas mangé, c'est terrible, ça fait pleurer. Hein. Ah oui, ça fait pleurer. Et on n'a pas besoin d'être un grand sensible pour finalement s'en apercevoir. La faim dans le monde. Et il y a ce cri, naturellement. Que mangerons-nous? Et de quoi serons-nous vêtus? Tiens, on commence à rentrer dans quelque chose qui existait déjà du temps de Jésus. Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ça, c'était les populations qui vivaient, les compatriotes de Jésus. Et peut-être même, la vie était difficile, hein. Même pour ceux qui avaient un travail, les disciples de Jésus, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a une histoire, et cette histoire est vieille comme le monde. L'inflation générale, on peut dire ça, et insuffisance économique, on n'en a jamais assez. Et vous savez, quand on commence à coûter à l'argent, il nous en faut toujours plus. C'est le train de vie, c'est le m'as-tu vu, c'est tout ça. Ça sert hein, d'avoir de l'argent. Voilà, ça sert, on ne va pas me mépriser. Mais néanmoins, si c'est pour véritablement eh bien, élever l'homme dans son orgueil, dans sa folie, pour qu'il pense croire qu'il est un demi-dieu, qu'il est un dieu même. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que l'on a, c'est une question de pognon. Excusez-moi le mot pognon, c'est pas beau. Oh, qu'est-ce que je suis en train de... Non, une question d'argent. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et l'homme est-il heureux? Non, au contraire. Qu'est-ce qu'il va faire de son argent? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en avoir de trop. Et vous savez, il ne faut pas être pauvre. Mais il faut avoir juste ce qu'il faut. Hein. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté, Seigneur. Le livre des Proverbes, naturellement. Hein. Oui, les causes. Et ça crée des quiproquos énormes, tout simplement. Tout ça, c'est la cause des émigrations. Des gens qui ont vécu dans un pays, qui sont des natifs de leur pays, naturellement. C'est un pléonasme. Mais qui sont natifs, et là, qui vont traverser le monde entier, qui vont traverser les mers, qui vont traverser la Manche. Eh oui, et puis tout ce que vous voulez. Hein. Et voir, finalement, et bien tout simplement, et bien de l'émigration, il peut y avoir des invasions. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand les barbares sont arrivés, là, de... Jezinskan, de Mongolie, etc., et puis toutes sortes de choses qui sont arrivées dans le monde. Et après, ils se sont dit, c'est à moi. Mais nous, les bons Français que nous sommes, on a viré les Gaulois, et puis les Gaulois ont viré les Celtes, et puis ça a toujours été comme ça, avec du sang. avec de la misère, avec des drames permanents, convoitises, également parce que là nous sommes en plein dedans avec nos maîtres du monde actuel, c'est-à-dire, eh bien, voler des pays, acheter des pays, parce qu'ils sont à la recherche et ils ont la convoitise des minerais rares et précieux. Oui. Est-ce que vous avez essayé de trouver du pétrole dans votre jardin, si vous en avez un? Ou des pierres précieuses? Ou des choses comme ça? Alors, vous faites ce que vous voulez, mais si véritablement vous essayez cette semaine, venez me voir à la fin, j'irai travailler avec vous. J'ai un cadeau pour la fête des mères, mais je suis en train de le préparer, mais vous ne dites pas à ma femme. Oh, allez là. Oh, excuse-moi. Alors, nous avons des exemples d'incessance pérégrination des patriarches. Abraham était quand même finalement dans le pays de Charan, il est parti dans le pays de Canaan, et puis vous avez Moïse aussi qui a fui Canaan pour aller en Égypte, d'Égypte il est revenu au chêne de Mamré, et puis, il n'y a que ça dans la Bible, vous avez remarqué? Les Juifs, tantôt un petit coup en Babylonie, ils reviennent, du temps des Madianites, etc., du temps des rois, eh bien c'était la même chose. Alors, on va maintenant lire un autre texte qui va nous faire rentrer dans le vif du sujet. J'espère que je ne vous ai pas importuné par mon cours d'histoire et géographie. Ouais? Bon, je poserai des questions à la fin. Pour voir si vous avez vraiment bien compris. Si je trouve une perle, je vous la donnerai après. Je suis gentil, il ne faut pas... Alors, dans 1 roi, chapitre 17, et nous allons prendre un exemple qui est celui-ci. C'est Élie qui est dans au torrent de Kérit et qui ensuite va passer, eh bien là, dans une ville qui s'appelle Sarepta. Ça vous dit quelque chose? Vous lisez votre Bible de temps en temps, oui, je pense. Alors écoutez, donc 1 roi, chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 14. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas vous rappeler le contexte. La farine qui était dans le pot ne manquera point, futur. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point également, jusqu'au jour. Il y a toujours un temps de renversement des choses. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie, Seigneur, n'envoie pas trop, sur la face du sol. Elle alla, la femme de Sarepta, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel, avrée prononcée par Élie. Alors, mes frères et sœurs, la question que Jésus pose aux disciples, avez-vous manqué de quelque chose? Qu'est-ce que vous répondez? Oh là là, c'est hésitant. Avez-vous manqué de quelque chose, mes frères?
Non.
Et pourtant, ce n'était pas triste hein, à l'époque hein, d'Élie. Hein. Ah oui, il n'y avait plus rien du tout. Hein. Plus d'eau dans les ruisseaux, donc plus de culture, plus de récolte, plus rien à manger. Et puis, on voit comment ça s'est passé. Vous savez, Dieu avec ses enfants, et c'est notre Père. Aucun Père n'aurait l'idée de priver ses enfants de manger quand ils ont faim. Vous ne lui donnez pas un serpent s'il vous demande un œuf. Vous ne lui donnez pas ceci, cela, s'il vous demande autre chose. Il va vous donner ce dont vous avez besoin, parce que pourquoi? Il est père, et nous sommes fils et filles, quoi qu'il en soit. Alors, on va commencer. Je prends mon temps. Hein. Moi, je suis aujourd'hui en retraite d'une part, et je suis aussi normalement en congé, parce que je fais un remplacement. Donc, j'ai tout mon temps ce soir, pas de problème. Ça va pour vous? Bon, écoutez, on va continuer un petit peu. Jésus nous dit, je viendrai à vous et je ne vous laisserai pas orphelin. D'accord ? Et d'autres passages nous montrent qu'il a comblé, Dieu a comblé de bien l'âme affamée. D'accord ? Et puis il y en a un qui va écrire cette parole extraordinaire qui reste un monument dans, finalement, eh bien, l'histoire mondiale. Et il dira, c'est David, il est le bon berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. Alors, retenez bien le rien, hein, parce que quand c'est rien, c'est rien. C'est moins que rien. Alors maintenant, on va voir un peu les impressions. Avez-vous manqué de quelque chose ? Au verset 22 de Luc, je rappelle, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, ressources de provisions, naturellement, on l'a dit, sans souliers, alors c'est pas facile d'aller de l'avant, ils répondirent rien. Je le note bien pour que ça pénètre. Dans Luc, chapitre 12 et au verset 15, il est donné cette parole. Alors Luc, chapitre 12, verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de tout avarice, de tout, en effet, d'une prévoyance exagérée, excessive. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même serait-il dans l'abondance. Et il va donner la parabole qui suit, que je ne vais pas vous rapporter, parce que finalement, vous la connaissez parfaitement. D'abord, mise en garde de la cupidité. Avoir, avoir, avoir toujours plus. Mais vous savez, mes frères, je le dis et je le répète, c'est que l'essentiel dans la vie d'un homme, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être. Et ça, c'est l'objectif de Dieu. Il veut que nous soyons. Et que nous soyons, ça c'est quand même le présent de l'indicatif, hein, que être, être, verbe, oui. Alors, la cupidité est mise finalement, eh bien là, en surligné. Parce que l'abondance, et nous le voyons à travers cette parabole que je n'ai pas lue, mais que vous connaissez, l'abondance ne rend pas toujours heureux. C'est vrai. Et on se lasse quelquefois des choses que nous recevons avec abondance en disant, voilà, bon, on va passer à autre chose, naturellement. Et y a-t-il véritablement une jouissance sous l'aspect d'un véritable bonheur, d'un ravissement, des jouissances, des possessions ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui quelquefois ne veulent plus vivre, ils ne supportent pas la vie parce qu'ils ont eu tout, ils ont connu tout, ils ont goûté à tout, que finalement ils n'en veulent plus. Donc les possessions, c'est à mettre peut-être, en tous les cas, un petit peu entre parenthèses. Constat et bilan des accumulations. Dans une société matérialiste et consumérisme comme la nôtre, hein, on ne peut pas dire autre chose, c'est vraiment eh bien, ce qui peut être dit. Pourquoi, et ça c'est la question que nous pouvons nous poser, j'espère que ce n'est pas votre problème, pourquoi tant d'insatisfaction et de misère morale, je dis bien misère physique, c'est vrai, mais avant tout la misère morale, les dépressions, la crainte de ceci, la peur de cela, les inquiétudes, les tracas, etc. etc. Alors ça c'est vraiment une question de notre monde, de notre temps aujourd'hui. Alors on va faire la vérification sur les évidences. Plus on possède de biens, vous savez, il y a eu des théories religieuses qui disaient « videz vos sacs, videz, vendez vos maisons, vendez tout, etc. » Ouais, bon, ça, il faut faire attention, parce que si vous les vendez, ça allait peut-être dans l'escarcelle, finalement, de l'Église et des choses comme ça, de la religion. Alors, ça, c'est pas bête comme stratégie. Hein. Vérification, plus on possède de biens, plus on s'inquiète. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvenons-nous de ce que nous dit Jésus quand il nous parle de cette belle petite parabole, quand il nous parle de la beauté du lys en fleurs au milieu de la prairie et qui finalement eh bien, va faire resplendir la nature. Et comment ça se fait ? Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un jardinier avec un chapeau de paille qui va venir tous les jours pour les arroser parce que finalement, c'est une belle chose ? Ouais, ça se fait. C'est véritablement eh bien, la providence de la création de Dieu. Et comment nous parle-t-il de la nourriture des oiseaux ? Aujourd'hui, dans les jardins, on voit des dames qui mettent toutes sortes à manger de choses, etc. Dans les zoos, c'est interdit de donner à manger aux oiseaux, aux animaux, hein, parce que finalement, ils meurent prématurément, les pauvres bêtes. Hein. La nourriture aux oiseaux, en disant, mais qui c'est qui fait ça? Qui c'est? Et pourtant, ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de... pour prendre la nourriture. Hein. Comment ils font pour faire, finalement, avec un bec, un nid? Moi, j'ai essayé de faire plusieurs fois avec ma bouche, hein, mais je n'ai jamais arrivé. Alors, comment ça se fait tout ça? Et ils ont de la nourriture, c'est séquentiel en fonction des saisons, des choses comme ça. Alors quelquefois ils ont beaucoup à manger, puis quelquefois ils n'ont pas grand-chose. Mais ils ont un système finalement pour faire du gras, comprenez, hein, pendant les périodes fastes. Hein. Ou devant le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Ah, ça c'est sidérant. Une foule immense se presse vers Jésus sur les monts de Galilée. Il y a 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Alors imaginez-vous, hein, pour la multiplication n'est pas difficile. Et là, tout le monde va avoir, à tel point qu'ils vont avoir suffisamment pour emporter, après le festin, parce qu'on peut dire ça, festin surnaturel, ils vont emporter 12 paniers pleins de pain. Qui c'est qui fait ça? Ils n'ont pas fait venir le boulanger ou rassembler tous les boulangers du coin. Hein. Non, pas du tout. En disant, on a besoin de 10 000 pains. Je peux vous dire que ça serait quelque chose, hein. Ça serait quelque chose. Jésus est le seul capable de répondre aux besoins, au singulier, mais au pluriel, aux besoins primordiaux pour apprendre à dépendre de lui. C'est ce que nous faisons déjà. Le réflexe de la prière que nous avons dans tous les problèmes que nous avons, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient tout simplement eh bien, d'une autre nature, nous voyons que, eh bien, la prière, c'est véritablement le témoignage que nous dépendons de lui. Alors, on ne fait pas les deux. Bon, il y a des choses qui sont quelquefois pratiques, mais une chose qui est certaine, c'est que nous comptons sur lui. Il est l'essentiel avec un grand E et nécessaire avec un grand N. Et si je lis la Bible, tout me ramène à mon Créateur qui a tout mis en place pour que je puisse me servir. Peut-être on se débrouille seul, même avec moins. Moi, c'est l'histoire de Kérit, c'est l'histoire de Sarepta. David affirme ceci, « J'ai été jeune, comme tout le monde, et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le mendiant, le pauvre, eh bien, tendre la main. » Tendre, mendiant son pain. Ouais. Le Seigneur nous donnera toujours ce que nous avons besoin. Nous avons dans, finalement, eh bien, la bibliothèque, nous pouvons dire, ou le musée de nos témoignages dans nos assemblées de Dieu, des choses extraordinaires. Nous avons entendu des choses extraordinaires. Où une femme seule, veuve, ou laissée par son mari, avec quelquefois 5 à 6 enfants à la maison, où il n'y avait plus rien à manger. Et pourtant, il y a eu des choses, nous on a entendu des paroles de pasteurs, qui véritablement, ah, ils n'étaient pas forcément nantis comme nous le sommes aujourd'hui, hein. Mais je peux vous dire, il y avait toujours quelque chose. Oui, ça c'est quelque chose. Formidable, formidable. Parce que le Seigneur, il est prêt à le donner à toute âme, il est prêt à le donner à tout homme, même si c'est un Maïen, même si c'est quelqu'un qui n'est pas converti. À partir du moment où cet homme va prendre conscience qu'il a besoin de Dieu, alors Dieu va ouvrir les écluses des cieux. C'est ce que nous avons dit dernièrement dans un message, je ne sais pas si c'était avec vous, avec Rodon, mais peu importe. Qu'en est-il des faits? Eh bien, les faits, ils sont là. Dieu nous donne un lit pour dormir. Vous allez me dire, c'est dérisoire. Hein. Il me donne un repas pour me substanter. Il me donne un manteau quand il fait froid, un imperméable, quand il pleut, ou un parapluie si vous voulez. Hein. Il me donne d'être à l'abri des voleurs. Il me donne également eh bien, toutes sortes de soulagements devant les encombrements physiques, hein, matériels. Il suffit tout simplement de se concentrer à lâcher prise et de lui dire « J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu as des trésors dans les cieux en réserve pour ma vie, pour ma famille. » Pour ma vie sociale, pour ma vie d'église aussi. Tu as tout ça, et je ne les vois pas. Je ne les vois pas parce que je ne sais pas voir. J'ai besoin que, véritablement, tu m'ouvres les yeux. Il faut lâcher prise sur nos traditions, sur nos religions, sur notre manière de penser, de nos valeurs que nous nous sommes données, que nos parents nous ont données, que la tradition nous a données, en tout genre. Parce que nous savons que toutes ces choses que nous avons acquises naturellement, et maintenant il faut passer à la phase spirituelle, à la phase d'une autre dimension, parce que nous savons que toutes ces choses humaines, eh bien, ne nous procurent pas totalement ou jamais la sécurité, le bonheur, l'épanouissement. Alors, nous avons, comme Jésus le dit, nous voulons être libérés de nos bourses, de nos sacs et de nos sandales. Vous allez tous repartir sans chaussures tout à l'heure. Et moi, je les ramasse après. Les yeux tournés vers Jésus. C'est une façon de prêcher, hein. Vous n'êtes peut-être pas habitué, mais... Les yeux tournés vers Jésus, nous avons besoin de... Mesurons le succès, et non pas à ce que je peux amasser, mais sur le peu que nous avons, que Dieu est capable de multiplier. Ah oui. Capable de multiplier les 3 poissons et les 5 pains, ou les noces de Cana. Quand ils sont sortis de la noce, ils n'avaient plus soif. Je peux vous le dire. Pas de problème. La semence, finalement, les quelques graines qui ensemencent le champ, parce qu'avec quelques graines, on peut faire un champ de je ne sais pas combien. Ça compte toujours par milliers, naturellement, mais enfin un peu, le peu. Le peu par rapport à la récolte. Parce que vous mettez 10 graines, et vous allez avoir des milliers et des milliers de graines après. C'est pour ça que nous sommes vraiment restrictifs. Nous n'avons pas la vision, finalement, de ce que Dieu est capable de faire, puisqu'il est tout puissant, et il est riche pour nous, et il nous aime à nous le donner. Ça va mieux, là, maintenant ? Ouais, bon, ben, je suis content pour vous. Hein. Le peu, disons-nous-le, le peu initial, c'est-à-dire le petit, dont j'ai besoin pour vivre, voire survivre, c'est l'embryon qui définit, qui devient fini, infini, incalculable. Ainsi, je ne manquerai de rien, comme dans le psaume 23. Si je connais le principe de la multiplication de la foi, pas plus de la graine. Que me manque-t-il ? Que vous manque-t-il, mes frères et sœurs ? Alors répondez-moi, que vous manque-t-il ? Vous êtes les chrétiens les plus heureux de la terre. Je tiens à vous le dire. Il y a un livre qui a été écrit comme ça. Hein ? Ouais, un très beau livre. Il doit être d'ailleurs... Je fais de la publicité, je suis bibliothécaire en même temps. Mais vous pouvez le retrouver, il est là dans le... Allez-y. Et j'en profite aussi pour dire, on a une belle bibliothèque ici. Ah ouais, formidable, hein. Oh, les livres sont un petit peu biscornés, mais peu importe, hein, vous ne regardez pas la couverture, vous regardez ce qu'il y a dedans. Ça, c'est important. Alors, je finis. Et quand je dis que je finis, je finis. C'est Myriam qui est contente. L'acte de foi repose sur cette promesse. Je bénirai ton pain. Vous connaissez l'Ancien Testament. Je bénirai ton pain. Je bénirai ton nom. Et j'éloignerai la maladie de toi, mes frères et sœurs qui êtes souffrants, qui êtes malades. Accrochez-vous à cette parole. Ce n'est pas Alain qui l'a dit. Ce n'est pas les hommes de la Bible qui se sont succédés. C'est Dieu qui dit, je bénirai ton pain, ton eau, et je te délivrerai de tes souffrances et de toutes tes peines. Voilà. Peur de perdre la petite graine de confiance, parce que c'est ça la question, hein. Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente ma confiance dans ta parole qui est une parole vivante et une parole qui réalise. Eh bien, ce que tu as le plus cher au cœur, c'est que je sois béni par cette parole. Ouais. Ne dois-je pas vivre en restant proche de Jésus ? Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous nous éloignons de Jésus, plus nous prenons de la distance, et plus nous allons sur un chemin qui est étroit et périllé. Mais ce n'est pas celui, finalement, que Jésus nous dit, mais c'est le chemin de l'écartement de la voie. Ouais. Alors, restons proches de Jésus, qui est, lui, si proche de nous, et il va même pousser les choses encore plus loin. Il est dit ceci, Jésus, le Consolateur, vous enverra le Consolateur, et il ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. Oui, et on ne se prend pas pour Dieu. Parce que ton corps qui souffrent, tes besoins qui te tourmentent, eh bien, Dieu les partage. Et il veut t'en libérer si véritablement, eh bien, la douleur est là. Car nous avons cette parole qui nous est donnée, parole ou écrit de l'apôtre Paul. C'est une belle parole. Vous allez m'en dire des nouvelles. Vous avez tout. Qu'est-ce que c'est l'adverbe ? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors n'allez pas chercher dans une quelconque religion ou secte. Et toutes, finalement, il y a là complètement des choses qui sont hors biblique et hors de la vie de l'esprit. Non, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En résumé, il m'a entouré. Il a pris soin de moi. Il m'a gardé comme la prunelle de son œil. Car celui qui a soif vienne, livre de l'Apocalypse, que celui qui veut, donc une question de volonté, prenne de l'eau de la vie gratuitement, et même s'il traverse une contrée déserte aux effroyables hurlements, je peux dire comme David, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite ce matin, et je crois que j'ai oublié un texte. Non, je ne l'ai pas oublié. Donc, je suis vigilant. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Prenez courage, quelles que soient les difficultés, les problèmes. Eh bien, nous avons là, quelque part, de la part de Dieu, une invitation. Et vous pourrez dire, je ne manquerai de rien, Seigneur. Et je n'ai pas peur de manquer quelque chose, puisque tu as tout. Et tu es mon tout. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et te remercier, Seigneur, parce que nous ne disons pas ça parce que nous avons en effet, eh bien, une bonne théologie de tout simplement, eh bien, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu as fait. Oui, mais c'est pas ça, Seigneur. C'est parce que nous pouvons dire que nous en avons fait l'expérience. Nous avons entendu des belles expériences d'hommes avant nous, d'hommes maintenant, et puis d'hommes de demain. En effet. Oui, nous te remercions et nous te bénissons. Nous voulons seulement avoir une pensée pour le monde qui est tellement malheureux, tellement, en effet, aveugle. Parce que les choses auraient pu être autrement. À la naissance, eh bien, des choses. Mais nous croyons, Père éternel, qu'il s'est renfermé dans une prison. Et aujourd'hui, eh bien, dans la prison, il y a des murs. Dans la prison, il y a des barreaux. Et la liberté, elle n'est pas dedans. La liberté, elle est dehors. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Moi, je te prie pour mes frères et sœurs. Et je te demande, Seigneur, véritablement, qu'ils s'affranchissent. Qu'ils peut-être, eh bien, viennent vers toi en disant, Seigneur, secoue-moi. Donne-moi, Père éternel, que toutes ces choses qui m'embarrassent, qui m'étouffent, qui m'empoisonnent, qui sont toxiques, eh bien, donne-moi, Seigneur, eh bien, délivre-moi du tracas permanent. Délivre-moi de l'inquiétude et donne-moi la vraie liberté, parce que Jésus est la vérité. Et dans la vérité, il y a la promesse de la liberté. Merci Jésus. Bénis ton nom.